Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Nous avons une demi-heure pour faire entrer un sommaire plutôt copieux avec une interview. Ce sera celle des frères Bouguerraba pour le film Délocalisé. Et quant à toi, Guillaume, tu as deux films.
Oui, alors moi j'ai deux polos aujourd'hui au programme. J'ai Paolo Sorrentino pour Parthénopée et j'ai Paul W.S. Anderson pour In the Lost Lands.
Toi, Manu, un film?
Ce sera The Blunsen Palace de Constance Chang.
Et puis toi, Sophia, un documentaire important.
Oui, celui de Shirio Ito, Black Box Diaries.
Mais nous allons commencer avec Marie qui veut un suicide assisté en Suisse mais qui ne parvient pas à le dire à sa famille. Elle a pour cela le temps d'un voyage. Nous parlons de On ira, c'est Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse.
C'est prévu pour quand votre...
La semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant.
On l'a vu avec le dernier film de Costa Gavras, parler de la mort n'est pas chose facile. Le réalisateur franco-grec a choisi, lui, une voie plutôt réflexive en s'appuyant sur un ouvrage. Enya Barou, connue pour jouer et co-réaliser la série Fleur Bleue sur Canal+, a choisi le ton de la comédie et du feel-good movie. Elle a aussi resserré le cadre en nous faisant partager le choix d'une femme que le cancer ronge et qui veut aller mourir en Suisse où on peut l'aider à aller à trépas.
Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man?
J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage.
Il y a combien?
Je peux venir?
Non, ma chérie.
C'est un truc d'adulte.
C'est un truc d'adulte et t'amène papa.
Mais voilà, Marie, qui a 80 ans, a du mal à avouer la vérité à son fils unique, David Ayala, et sa petite fille. C'est pourquoi elle invente une histoire d'héritage à toucher en Suisse, hein, on l'entend bien. Et ça tombe bien pour son fils, ce menteur invétéré a de gros problèmes d'argent. Alors pour faire ce voyage, il y a quand même deux contraintes. La première, c'est de partir avec le camping-car du papy. Comme ça, ça va laisser le temps à Marie de faire ses révélations. Et puis la seconde, c'est que ce soit Rudy, Pierre Lottin, un auxiliaire de vie que Marie vient de rencontrer, qui conduise le véhicule. Lui seul connaît le projet de l'octogénaire. Il aura tout le loisir de voir avec le spectateur comment, eh bien, dans cette famille, la communication n'a rien de simple. Bruno, le fils, ne parle pas de ses problèmes d'argent. Sa fille, volontiers cynique, ne cesse de le traiter d'adolescent avec des répliques qui font mouche. Quant à Marie, eh bien, elle ne se décide pas à avouer son projet.
Ils ont un gros problème de communication.
Ah, ça, vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, hein. Bon, c'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux
volcans. La vie, ça, best life, là. Sous le tapis du vent, voyage,
voyage. Plus loin que la nuit et le... J'oublie les médicaments, je confonds les patients, enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que.
Mourir.
Ouais, voilà, ouais.
Voilà.
On dit parfois que certaines chansons de bande-annonce ne sont pas exploitées dans le film. Là, en l'occurrence, le voyage-voyage de Désirless est exploité à plusieurs endroits. Alors, ce n'est pas tant la voie du questionnement sur l'acte de suicide assisté que la jeune réalisatrice recherche. Marie donnera quelques arguments, hein, comme celui finalement de faire ce qu'on a envie de faire et d'aller jusqu'au bout. Enya Banou conduit une comédie qui ne doit jamais être vraiment grave, même si certaines séquences doivent permettre la réflexion. Le point très positif, c'est qu'elle parvient à bien caractériser ses personnages. C'est un plaisir de voir d'ailleurs Pierre Lottin autrement qu'en tuche abruti. Le point négatif, ce sont peut-être les gros traits, ce qui unit et désunit les personnages, manque parfois de nuances, notamment le rapport entre le père et la fille qui vient d'avoir ses règles. Mais On ira est un road movie qui sait circuler entre rire et gravité, sans plomber, aidé en cela par une musique très présente. Ce voyage vers la Suisse va faire bouger les lignes de chacun des personnages, non sans la rencontre de l'altérité. Et c'est un point commun avec le film de Costa Gavras. Il nous est aussi montré ici le rapport qu'entretiennent les gitans avec la mort, moyen de célébrer la vie. Sauf que dans le film de Costa Gavras, c'était une vision un peu romantique. Et là, ben, on est vraiment dans le campement des gens du voyage. Ce film, cette comédie, On ira, est en salle depuis le 12 mars. Victime d'un viol en 2015, la journaliste Shiori Ito livre un documentaire retraçant son affaire. Nous parlons de Black Box Diaries.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Après des années de batailles judiciaires, The Black Box Diaries nous donne enfin accès à l'histoire de Shiori Ito. Son viol remonte, comme tu le disais Vincent, à 2015 et son combat contre un système qui protège les agresseurs s'est étendu dans le temps et bien au-delà des tribunaux. Ce documentaire coup de poing a été primé dans de nombreux festivals, nommé aux Oscars, mais reste toujours censuré au Japon, où l'affaire qu'il expose a provoqué un véritable séisme. Ce n'est pas seulement un film sur une affaire de viol, c'est un film sur le combat d'une journaliste et d'une victime contre un système qui les réduit au silence. Dès son ouverture, le film affiche un trigger warning, une précaution rare et pourtant essentielle dont je vous propose cette traduction. Je sais qu'il y a d'innombrables personnes à travers le monde qui ont subi des violences sexuelles. Soyez attentives aux déclencheurs de ce film, fermez les yeux, prenez une grande inspiration si nécessaire. Cela m'a aidé tant de fois. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Un simple carton, mais qui devrait être une véritable évidence pour n'importe quel film abordant frontalement de tels sujets. Et pourtant, combien d'œuvres se complaisent encore à infliger aux spectateuristes des scènes de sidération sans le moindre éclairage, comme si la réactivation des traumatismes était un simple dispositif de choc. Je pense notamment, en passant, au film Animal et à l'irresponsabilité de sa mise en scène par sa réalisatrice Emma Benestan. Alors à mon tour, chers auditoristes, fermez les oreilles et prenez une grande inspiration si besoin. Shiori Ito, journaliste d'investigation sociale, est la première femme à avoir osé dénoncer publiquement son viol au Japon en pointant du doigt Noriyuki Yamaguchi, journaliste reconnu, ami et biographe officiel du premier ministre Shinzo Abe. Ce que The Black Box Diaries documente, c'est l'étouffement de l'affaire et le chemin de croix judiciaire qui a duré près de 7 ans. Sa matière première, d'abord les enregistrements audio de toutes les conversations et entretiens que Shiori Ito a pu avoir avec les enquêteurs, les avocats, les magistrats, chaque échange, même ceux qui lui était interdit d'enregistrer, devenant pièce à conviction de son combat. Les transcriptions de ses enregistrements ont servi à écrire son livre « Black Box ». La boîte noire filmique, elle, s'apparente à un puzzle où les voix des entretiens s'accompagnent d'images de Tokyo filmées en caméra embarquée, de selfies vidéo où elle s'adresse en anglais à la caméra en format vertical dans l'intimité de son appartement, de captations prises par ses proches à domicile ou en filature, et puis des conférences de presse. Ainsi, que de quelques images d'archives, celles notamment des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel où on la voit être traînée hors d'un taxi, inconsciente, par Yamaguchi la nuit du viol. Preuve accablante que la justice japonaise s'est acharnée à minimiser. Ce qui est fascinant dans la construction du film, c'est l'évolution de son point de vue. D'abord, Ito mène son enquête comme si elle écrivait sur quelqu'un d'autre. Pendant la première partie du film, en fait, qui suit le procès criminel aux assises, sans qu'on y accède, elle se tient à distance, presque froide, détachée. Son approche est rigoureuse, journalistique, on comprend que le simple fait d'adopter cette posture lui permet de se protéger. Elle travaille, en fait, défend un dossier, pas son propre traumatisme. Mais tout bascule avec le procès civil. Cette fois, ce n'est plus une affaire qu'elle défend, mais elle-même. Elle n'est plus seulement la journaliste qui dénonce un système corrompu dans lequel on protège les puissants, elle en est aussi la victime. Et cette prise de conscience bouleverse la narration. À mesure que le procès avance, le film devient plus intime, plus dur à regarder aussi. La douleur remonte, elle s'insinue dans les silences, dans les tremblements de la voix, dans le montage lui-même. La caméra se rapproche, capte son visage bouleversé, son immense désarroi et en fait la détérioration accélérée de son état mental. Toutes les identités de Shiori Ito, journaliste, victime, écrivain, réalisatrice, se réassocient enfin violemment. Heureusement, la lumière revient avec le mouvement vociférant de MeToo en 2017, dont les échos outre-pacifiques lui parviennent et forcent aussi le Japon à regarder ses propres tabous en face. The Black Box Diaries est un documentaire puissant et touchant, à la fois enquête, confession intime et manifeste. Il expose avec une lucidité implacable l'ampleur des violences systémiques faites aux femmes, mais il raconte aussi autre chose, la reconstruction sur l'hymne de Gloria Gaynor, I Will Survive. La nécessité de reprendre le contrôle de son propre récit. Dans une société qui étouffe, Shiori Ito a trouvé une manière de faire entendre sa voix, et en la regardant faire, c'est aussi la nôtre qu'elle libère, comme Gisèle Pellico nous y invitait également avec le procès historique en France des viols de Mazan. Et que la honte change vraiment de camp.
Black Box Diaries est en salle depuis le 12 mars. C'est à peu près sans transition que nous passons à un autre film. Paul W.S. Anderson fait encore tourner sa femme, Mila Jovovich, et cette fois-ci, c'est dans In the Lost Lands.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Si vous avez du temps et l'estomac bien accroché, j'ai une histoire pour vous.
Et oui Vincent, hein, In the Lost Land, hein, que l'on pourrait quelque part retitrer Resident Evil 7, bah attends, on ne change pas une formule qui tâche, hein, bah voit Paul W.S. Anderson à la réalisation, sa femme et muse Mila Jovovich devant la caméra, de l'action bourrine à base de ralenti et d'images de synthèse parfois hideuses. Bref, on semble être en route vers le purgatoire d'un vidéoclub maudit, et pourtant bah, j'ai un peu envie de défendre le dernier effort de l'autre polo de l'émission.
Le monde que vous connaissez a disparu, consumé par une terrible guerre il y a fort longtemps. Il ne reste plus que les contrées perdues.
Je cherche un guide pour aller dans les contrées perdues.
Pourquoi veux-tu t'y rendre?
Je suis à la recherche d'un immense trésor, d'une puissance infinie.
Alors pas beaucoup plus hein, non plus, hein, faut pas non plus, hein, bref. Car on est malheureusement loin de son heure de gloire et que In the Lost Land bah, constitue ce qu'il a fait de moins bon et de moins inspiré dans sa filmographie. Mais quand même, hein, bon, on va dire que c'est pas tous les jours qu'un film ouvertement métal hurlant dans l'esprit, le vrai, hein, se ferait un chemin dans nos salles obscures, alors autant y prendre le positif. Alors le bon, hein, c'est ce sens du rythme hein, qu'a toujours Anderson, artisan sans aucune prétention hein, d'agréable série B à la durée courte, un peu comme la psychologie de ses personnages. Et même si on a l'impression que le film a régulièrement au moins 20 ans de retard, hein, ou plutôt qu'il s'est figé il y a 20 ans, hein, comme les traits de Mila Jovovich, à une époque où elle conduisait une moto à la verticale sur un immeuble dans l'inénarrable ultraviolet de Kurt Wimmer, ben on a besoin de ce genre de divertissement petit pop-corn. Alors il n'y a que Polo hein, aujourd'hui pour nous faire un post-apo avec une sorcière et un pistolero, joué par Dave Bautista, visiblement pressé de perdre ses lauriers gagnés chez Denis Villeneuve, ben chargé de retrouver un métamorphe, hein, comprendre un très très gros loup-garou, au pouvoir qui pourrait changer la destinée d'un peuple. Alors bien sûr, hein, il se cache dans les contrées perdues du titre, et bien sûr, le chemin sera autant chargé d'embûches que de rebondissements et d'actions. Alors on est loin hein, des réussites passées, du réalisateur comme l'excellent Event Horizon, hein, ou les combats matrixiens à base de bateaux volants bombardant Versailles dans son adaptation très fidèle des Trois Mousquetaires, mais Anderson garde malgré tout son sens du cadrage très efficace et un appétit pour les univers pulp hein, qui assurent un divertissement efficace d'1h30. Alors n'en demandez pas plus, il n'y en aura pas, hein, mais les quelques cinéphiles déviants comme moi et vous, j'en suis sûr, seront quasiment tous déjà allés le voir. À vous de voir hein, si vous vous laissez tenter.
Pas sûr qu'il reste longtemps sur les écrans. En tout cas, il y est en ce moment In the Lost Lands. Une usine de matelas est délocalisée en Inde. Même pas peur, c'est l'interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Redouane Bougueraba est l'un des rares humoristes français avec Florence Foresti à remplir des arénas. Il a même de son côté rempli le stade Vélodrome, ce n'est pas rien. Sa cote dans l'humour est au max, hein, mais dans le cinéma, on peut dire qu'il peine à convaincre avec Délocalisé, film co-réalisé avec son frère Ali, qui lui est derrière la série Sekpa. Une comédie qui ne s'embarrasse d'aucun complexe de vraisemblance. On y suit Redouane qui travaille dans une usine de matelas du nord de la France et qui apprend que celle-ci va se délocaliser en Inde, mais ça ne le fait pas peur. Il est nommé contremaître là-bas, sacrée promotion. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Il y a le choc culturel, vite dépassé, mais quand même un sacré problème économique qui aura raison de son couple. Mais heureusement, eh bien, tout se termine bien. Les deux frères Bougueraba n'ont pas fait comme Jacques Audiard. Hein. Ils ont vraiment tourné en Inde à la recherche d'une authenticité qui peine un peu à crever l'écran. Il y a quelques bonnes trouvailles, comme les sosies indiens de personnalités françaises. Le sosie d'Hanouna est vraiment remarquable et ça fait rire un petit moment. Mais ça ne suffit pas à faire un film dont on perd le propos, si ce n'est que le plus important n'est peut-être pas d'écraser les autres, mais de lutter avec eux. Alors on va quand même... C'est un peu ce qu'on fait dans Cinérama. Quand on rencontre des réalisateurs, on les laisse se défendre. Donc nous écoutons Ali Bougueraba et son frère Redouane nous parler de Délocaliser.
Le conseil d'administration a pris la décision.
Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a plus rien. De délocaliser notre site en Inde.
En Inde?
Et pour le salaire?
Vous serez payé double.
Double? On part en Inde! Ouais.
Il y a 3-4 ans, je sors d'un événement et là j'ai deux loustiques qui viennent m'interpeller, qui me disent qu'ils sont fans de moi, qui m'ont vu dans les films et que j'ai à chaque fois des petits rôles et qu'ils aimeraient me voir dans un premier rôle. Et ils m'ont dit, le premier rôle que tu peux avoir, c'est le rôle que tu vas t'écrire toi-même. Donc on peut t'aider à écrire. Ce sont deux auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Donc ils me disent, on aimerait écrire avec toi. Le père de Germain travaille dans une usine qui a été délocalisée. Donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a eu le thème de la délocalisation et de l'usine. Et après, pourquoi on a choisi l'Inde ? Parce que l'Inde, pour nous, on a grandi avec Bollywood, les séries Devdas qu'on trouvait très bien. Et on est fan de cette culture indienne que sont les films Lion ou Slumdog Millionaire. Et l'Inde, c'est magnifique.
Avec mon salaire, on va vivre une vie de roi.
On dirait Gandhi.
Non, on dirait l'imam de la mosquée de Ranci.
Je te présente Ravi, Kapi, Gautama.
Attends. Je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, monsieur le président.
On a dû réécrire le scénario une fois en Inde. Parce que je disais, les gars, ça marche pas. Ça, c'est notre vision occidentale. Avec, on importe nos fantasmes et nos problématiques européennes. Et du coup, en étant sur le lieu, on s'est dit, on va essayer de coller le plus possible à la réalité. Et encore, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait parce que moi, j'aurais aimé que mon frère fasse une petite partie de cricket avec les gamins dans la rue au lieu de faire une partie de foot, ce qu'ils font tous là-bas. J'aurais voulu le voir aussi se balader dans le métro de Calcutta. Ils ont un métro qui est extraordinaire. On n'a pas pu shooter dedans. Et donc, il y a plein d'endroits comme
on
ça.
Le fera pour le 2.
Oui, voilà, pour le 2. Mais voilà, il y a plein d'endroits qu'on aurait aimé faire partager aux spectateurs.
Michette,
Jean-Marie,
Edouard. On a une vie de malade pour regarder comme c'est beau.
Il n'y a pas de fourchette couteau.
Si on mangeait avec les mains.
Notre but, c'est de transmettre des émotions, de faire rire les gens, de les faire voyager. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film. Avec votre billet de cinéma, vous avez pris l'avion, vous atterrissez à Calcutta et vous avez les couleurs, vous avez l'ambiance, vous avez le rire, vous avez toutes ces émotions qui sont transmises. Et j'en avais un peu marre de voir des films enfermés entre quatre murs, les huis clos. Je trouve que trop de huis clos tue le huis clos. Et j'avais besoin de cette ouverture justement pour me dire ouais, si j'amène les gens pour mon premier film, je vais les faire voyager, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Ma plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie, et ben il a réussi à trouver pire.
Moi, ma femme est corse, et sa mère, elle ne m'aimait pas au début. Qu'est-ce que tu fais avec un arabe ? Elle dit non, mais c'est un Marseillais. Mais je dis c'est pareil, c'est un arabe, c'est un pléonasme. Elle dit qu'est-ce que tu fais avec lui ? Elle dit mais t'as peur de quoi ? Ben, j'ai peur qu'il t'amène vivre en Algérie. Mais il vit à Marseille, qu'est-ce qu'il va t'amener vivre en Algérie ? Donc il y a eu ce conflit que beaucoup de gens ont avec leur belle-mère.
Il a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. On va lui sortir la plus grosse spécialité française.
La baguette ?
La crève.
Tout le monde s'attend à un film cliché. On essaie de déjouer les clichés. Tout le monde se dit, ouais, ils vont partir en Inde, on les connaît. Ils vont se foutre de la gueule des Indiens. Et pas du tout. On essaie d'être réel. Après, on essaie de déjouer les clichés au maximum. Parce qu'on arrive, là, on les a pas dénigrés. Le départ, ouais, il arrive avec son regard français, colonialiste, pour les écraser, pour les dénigrer, mais non, il arrive, il se dit, oh, on se calme, on essaie justement de ramener une vision sympa, réelle, que même si les Indiens regardent ce film, ils se disent, ah ouais, ils sont pas foutus de notre gueule.
C'était Ali Bougueraba, mais majoritairement quand même son frère humoriste Redouane Bougueraba pour le film Délocalisé dans Cinérama, car nous avons pu rencontrer les deux réalisateurs. Un salon de massage new-yorkais sert de refuge à de nombreux clients. Nous parlons de Blue Sun Palace.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Blue Sun Palace, ça souffle sur une scène de repas dans un restaurant. Hein. Didi et Chung sont filmés à hauteur de visage dans un long plan en séquence de 5 minutes où la caméra ne cesse d'aller d'un personnage à l'autre. La complicité charnelle évidente se poursuit lors d'un karaoké où tous deux entonnent une chanson pop. Alors, en deux temps, Constance Tsang, la réalisatrice, inscrit son premier long métrage dans une veine naturaliste et flottante, caractéristique d'un certain cinéma indépendant américain, mais de moins en moins présent sur les écrans, du moins français. Hein. Alors, d'origine chinoise, la jeune réalisatrice new-yorkaise cite son récit dans un salon de massage qui sert de refuge aux salariés, dont donc Ami et Didi, refusant par ailleurs de se livrer à des prestations d'ordre sexuel. Déracinées, loin de leur famille, elles vivent ensemble, soudées dans un esprit communautaire. Mais quand Didi disparaît, Chung, son amant, se rapproche de son ami. Cette disparition intervient à un moment clé du nouvel an lunaire, une césure brutale et inattendue qui fait place au générique à la 32e minute, un peu à la manière du récent Drive My Car, mais pour des raisons différentes.
不好意思啊，我们春节不营业了。我只是觉得，我想要改变。
那你开个餐厅好啊，你手艺那么好。
谁跟你说我想开餐厅？
Tout ce qui précède en fait n'était qu'un leurre, une manière de prendre la main au spectateur dans l'univers confortable du feel good movie où règne une sororité apaisante. Par ailleurs, Constance Tsang filme très bien les scènes de groupe, enlevées et naturelles, dans un décor certes confiné, mais qui ne sent jamais la facticité du studio. Elle fait mine d'introduire un joli portrait de groupe qu'elle réussit parfaitement pour mieux basculer ensuite dans une réalité plus cruelle, un drame humain où cette communauté chinoise n'est pas à l'abri de la violence du monde et particulièrement de celle des hommes, même si sur ce plan, la réalisatrice se garde bien de tout didactisme. Alors la disparition de Didi se transforme aussi Blue Sun Palace. Derrière ces velléités plus sociales, on a beau film sur le deuil, sur la perte des êtres chers, à travers le portrait touchant de son amant et de sa meilleure amie, magnifique personnage en miroir de la cinéaste. Alors fortement inspirée par Tsai Ming-Lang, dont elle a repris son acteur fétiche, Li Kancheng, Constance Tsang privilégie les plans larges dans la durée, laissant ainsi les personnages respirer dans une atmosphère claustrophobique, très fermée, à tel point que l'on ne voit presque jamais la ville de New York. Elle aborde aussi en filigrane la notion de frontière, d'espace entre deux mondes, celui replié de Chinatown et l'autre à ciel ouvert, que l'on ne perçoit que par bribes. Le travail précis sur la forme, hein, avec ses cadrages très composés et surtout très difficile parfois, parce que c'est vraiment des décors naturels. Hein. Donc ce travail induit une distance nécessaire qui laisse planer un mystère constant. Le décor du salon de massage exigu devient dès lors un lieu de déracinement, l'antichambre d'une communauté trouvant difficilement sa place dans un pays faussement accueillant. La narration filandreuse, tout en rupture, perturbe le regard du spectateur, ne permettant pas d'appréhender la temporalité du film. Cette maîtrise de l'espace et du temps contient toute l'émotion fragile qui traverse le récit. Alors tourné en 35 mm, donc en pellicule, nimbé d'une photographie splendide, Blue Sun Palace déploie une mélancolie qui infuse ce beau portrait de perdant magnifique cloîtré dans un environnement feutré. À travers le fantôme de Didi, Ami et Cheng se construisent progressivement, même si le film se termine par une douce amertume. Alors l'émotion contenue doit beaucoup à la présence d'un trio de comédiens exceptionnels, Li Kancheng cité ci-dessus, mais aussi Ai Peng-su et surtout l'impressionnante Kexi Wu qui avait été aperçue, c'est pas des acteurs très connus, mais qu'on avait aperçu dans un film que j'avais chroniqué ici, qui était très beau, qui s'appelait Mina Wu. Alors Constance Tsang s'impose par ses choix radicaux de mise en scène comme une réalisatrice à suivre dont on attend la suite.
Bon, j'espère que vous aviez un bloc-notes pour noter les prénoms et de ces
acteurs. On s'en rappellera.
Non. Donc c'était Blue Sun Palace en salle depuis le 12 mars. Voyage à Naples au travers d'une figure mythologique en usant de métaphores. Guillaume est le seul à avoir aimé Parthénopée, c'est pour ça qu'il en parle.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Paolo Sorrentino est napolitain. Alors qui peut en douter, tant ses films ne cessent d'explorer l'histoire, le passé, les événements, mais aussi la mythologie entourant cette ville qui ne cesse de le fasciner. Alors ce que Paolo Sorrentino fait pour Naples, c'est un peu ce que Stephen King a fait pour le Maine, un terrain de jeu créatif qui l'ouvre au monde entier à une différence près. Il est sûr que Stephen King a su rendre le Maine universel dans ses écrits, ce qui n'est pas forcément le cas de Sorrentino pour Naples, qui reste une terre de légendes au pluriel, et bardée de symboles parfois cryptiques qui seront encore une fois bien difficile à décrypter pour les néophytes. Et ce n'est donc pas Parthénopée, un titre bien évidemment extrêmement symbolique s'il en est, qui nous fera dire le contraire. Alors dans la mythologie grecque, Parthénopée est une sirène dont le destin est intimement lié à Naples, d'où la naissance de ce personnage dans l'eau dans le film, et sa nomination due à un membre de sa famille ayant à la fois un recul sur la symbolique de la naissance d'une fille dans la famille et de grands espoirs pour elle. Alors la légende dit qu'Ulysse résista à son chant et que, de désespoir, la sirène se suicida et son corps s'échoua sur les rivages de Naples. Alors d'autres avancent qu'elle était une sirène du golfe napolitain et prise d'un centaure nommé Vésuvius. Jaloux, Zeus aurait métamorphosé le centaure en volcan, donc le Vésuve, entraînant le suicide de Parthénopée, dont le corps fut transporté sur Mégaride, l'ancienne petite île de Naples. Parthénopée, c'est donc cette figure stellaire, mais aussi maritime et profondément terrienne, qui renvoie à cette ville que le réalisateur ne peut que magnifier à longueur de plan. Mais s'il y a récit mythique, mythologique et donc symbolique, c'est plutôt à travers la personnification de ce lieu via cette jeune femme qu'il va y avoir lieu. Alors Parthénopée retrace environ 70 ans d'existence, des années 50 à nos jours, suivant une jeune femme d'une une beauté affolante qui va devenir une femme de lettres, d'esprit et d'importance dans sa ville. Sorrentino convoque le tout et le rien dans sa mise en scène, car l'important pour lui n'est pas tant une chronique d'adolescente qui se découvre, puis de jeune adulte qui s'affirme, mais de convier les événements d'une vie via le prisme du sacré et du temps qui passe.
À toute veste.
Partenope est joué par la sculpturale Céleste Dalla Porta, hein, dont c'est le premier grand rôle et ô combien difficile, hein, car elle n'est pas qu'une belle coquille, hein, mais également un esprit fin, libre et cultivé, et le réceptacle de la mémoire de sa ville. Elle était déjà dans La main de Dieu, le précédent long métrage du réalisateur, également coproduit par Netflix, bah, d'où peut-être d'ailleurs son absence de prix à Cannes, hein, peut-être politique, car il faut bien s'étonner, hein, du non-émerveillement du jury pour la beauté plastique du film, hein, un véritable péplum du quotidien, si j'ose dire, hein, enchantement de tous les instants, pour matérialiser les thématiques de Sorrentino sur la vie et bien sûr Naples. Alors ce qui paraît banal dans la vie de tous les jours et pourtant admirablement mis en lumière chez des réalisateurs comme Richard Linklater est ici déifié. Tout devient expérience sensorielle, des premiers émois aux rencontres, en passant par les amitiés et les deuils. C'est normal car chez Sorrentino tout est mythique et tout est lié aux légendes, on l'a dit, de Naples. Il y avait celle du Monacello dans La main de Dieu, il y a ici la sirène et tout le rituel autour de San Gennaro, un saint dont le sang a été recueilli et est exposé chaque année. Alors à la manière des agissements de la marmotte dans Un jour sans fin, si le sang se liquéfie rapidement dans sa fiole, c'est un gage de prospérité et bonheur pour Naples, à contrario de sombres heures attendent la ville si elle tarde à se produire, voire si elle n'a pas lieu du tout. Mais c'est un peu ce qui attend le spectateur s'il n'a pas quelques-uns de ses codes pour pleinement apprécier le film, remarquable dans sa mise en scène, mais peut-être trop cryptique pour le grand public. Ça avait l'air d'être un peu votre cas.
Alors malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler plus que ça, mais on va tenter d'écouter le réalisateur italien qui était à Cannes en conférence de presse.
Io sono nata qui.
Partenope è nella prima parte del film quando il giovane coincide con la città. Sono due misteri. Nella seconda parte diventa il suo sguardo più critico.
C'est son regard plus critique.
Inizia una fase più di disincanto.
Dans une phase désenchantement.
È una donna libera, spontanea, che non giudica esattamente come la città.
Exactement comme la ville.
De la libertà della città.
C'est une réflexion sur la liberté de la ville où j'ai vécu.
Era già tutto previsto fin da quando tu ballando
sembri una santa.
Mi hai baciato di nascosto.
Sì, Napoli è una città che...
Oui, Naples.
Sì, c'è una coincidenza fra il personaggio e la città. D'altronde il personaggio ha il nome della città. Partenope è l'antico nome della città di Napoli.
C'est l'ancien nom de la ville de Naples. Et elle porte ce nom.
Mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi
Naples est une ville importante. C'est une ville dans laquelle on a l'impression d'être dans un lieu de vacances pour toujours. Au cours d'une certaine phase de notre vie, cette ville peut être un peu moins déterminante. Et donc, il y a beaucoup de Napolitains qui ont un rapport de fuite constante avec la ville de Naples. Ce qui m'a intéressé dans cette ville est quelque chose qui m'est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Lorsque j'étais tout jeune, je n'attachais pas beaucoup d'importance à cette ville. C'est plus tard que j'ai compris ce qu'elle pouvait représenter, ce que j'ai voulu mettre dans les films.
C'était Paolo Sorrentino qui était en conférence de presse au Festival de Cannes où son film Partenope était en compétition. Ce film n'a rien reçu, en revanche, il est en salle depuis le 12 mars.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et toi Sophia, tu nous parleras bien d'un film d'une petite fille, d'un grand réalisateur.
Oui, le film de Gia Coppola, The Last Showgirl, avec Pamela Anderson, ainsi que de Magma, film français.
Et toi Guillaume, un film ?
Oui, moi je vais vous parler de Vermiglio ou La mariée des montagnes.
Putain Manu.
Le nouveau film de Soderbergh, The Insider.
Et puis nous écouterons le réalisateur de Moi, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. À la semaine prochaine.